Avant l'élection présidentielle aux États-Unis mardi, nous avons voulu vous proposer dans ce numéro du magazine qui interroge, vous le savez, ceux qui pensent le monde, une réflexion autour de ce que l'on appelle l'américanisation. Un mot qui déclenche toujours un débat, débat qui de longue main repose en général sur la question suivante, sommes-nous tous devenus des Américains ? Pas du tout, répond notre invité Ludovic Tournès, qui nous propose un livre très riche qui a pour titre, justement, Américanisation. Pour l'auteur qui a de ce phénomène une approche subtile, il s'agit, écrit-il, d'un projet visant à construire une nation aux dimensions de la planète par un incessant mouvement de va-et-vient entre le continent nord-américain et le reste du monde. Il s'agit donc pour lui d'un échange et non d'un quelconque impérialisme. Et il nous rappelle que ce terme, américanisation, avait originellement deux sens. L'assimilation des populations immigrantes aux États-Unis, d'une part, la transformation du monde en États-Unis, d'autre part, note-t-il. De tout cela, nous allons en parler dans un instant. Idée, donc, un magazine que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez, en balado ou diffusion, comme on dit au Québec, qui résiste à l'américanisation, justement, au moins sur le plan de la langue. Après l'avoir téléchargé sur notre site www.rfi.fr ou sur votre plateforme de recherche préférée, ou mieux encore, en vous y abonnant.
Bonjour.
Vous avez reconnu Gershwin, Rhapsody in Blue, version de 1942 avec l'orchestre de la National Broadcast Company, la NBC, dirigé par Arturo Toscanini avec Earl Wide au piano et Benny Goodman à la clarinette. Donc on est vraiment déjà dans l'américanisation aux États-Unis en quelque sorte.
Absolument, parce que ce soit la Rhapsody in Blue ou que ce soit Benny Goodman, on a affaire à des gens qui sont des émigrés d'Europe ou de génération, de première ou deuxième génération, et qui, de par leur activité musicale, ont réalisé toute une série de mélanges entre des traditions musicales européennes et états-uniennes. Et effectivement, c'est tout à fait au cœur de cette culture patchwork qui est la culture des États-Unis.
Alors qui plus est, c'est la version reprise par le générique de Manhattan de Woody Allen. Donc le cinéma s'en mêle. On a là une union de tous les arts, en quelque sorte, musique, cinéma.
Absolument, et c'est vrai que le cinéma est aussi un élément de cette culture patchwork, parce que quand on regarde l'histoire d'Hollywood, c'est devenu aujourd'hui le symbole de ce que c'est que la culture américaine, et quand on regarde son histoire sur le long terme, on a affaire à une espèce de creuset où finalement se mélangent des Américains et puis des gens venus de tous les pays du monde qui viennent, des acteurs, des réalisateurs, et finalement qui donnent un cinéma à la fois profondément américain, mais aussi extrêmement influencé par des cinématographies étrangères.
Ludovic Tournès, je vous ai interpellé sans vous présenter, je vais le faire maintenant. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Genève, en Suisse, et votre démarche est globale, elle est originale, votre démarche, parce qu'elle est à la croisée des relations internationales, de l'histoire transnationale et de l'histoire culturelle, on l'a constaté déjà en vous écoutant à l'instant. Vous parlez aussi, vous vous intéressez aussi à l'histoire des sciences. Et après une thèse de doctorat sur la réception du jazz en France, vous êtes intéressé à l'histoire de la politique internationale, des grandes fondations philanthropiques, dont vous parlez d'ailleurs aussi dans ce livre. Donc vous avez une approche universitaire de chercheur qui est globale, je répète le mot.
Oui, je pense que l'américanisation, c'est naturellement quelque chose qui doit être considéré de façon globale, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'études qui ont déjà été consacrées à ce thème, mais c'est très très souvent des études nationales, comme si finalement il y avait une espèce de relation bilatérale entre les États-Unis et tel ou tel pays. Alors, c'est vrai, mais ça n'est qu'une dimension partielle du phénomène. Pour comprendre vraiment ce phénomène, il faut l'envisager à l'échelle mondiale, tout simplement parce que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, les États-Unis sont une nation qui se sont conçues dès le départ à l'échelle de la planète, et le projet d'américanisation n'est pas un projet d'américanisation de tel ou tel pays, mais un projet d'américanisation du monde. Alors après, ce projet a-t-il réussi? Ça, c'est un autre problème, on pourra en parler, mais il y a littéralement, effectivement, ce pays qui se conçoit sa construction nationale à l'échelle du monde entier.
Il y a vraiment deux choses qui m'ont intéressé dans votre livre. Notamment, il y a cette notion de va-et-vient qui atténue un petit peu cette notion d'imposition de l'Amérique à l'étranger. L'étranger a aussi influencé l'Amérique, on l'a constaté avec Gershwin, par exemple. Et il y a aussi cette notion d'américanisation des Américains avant l'américanisation du monde.
Alors, cette notion de va-et-vient, elle est extrêmement importante parce que, effectivement, l'américanisation, ça veut dire deux choses, et ça veut toujours dire deux choses, mais c'est vrai que le plus souvent, les spécialistes de l'américanisation n'envisagent que la deuxième définition. L'américanisation, ça veut dire effectivement l'assimilation des migrants aux États-Unis pour les transformer en États-Uniens, et puis la transformation, effectivement, du monde en États-Unis. Et ces deux choses-là, on en retient le plus souvent que la deuxième, mais ces deux choses-là fonctionnent en même temps, ensemble et selon la même logique. Et ça, je crois que c'est très très important. Et par ailleurs, cette notion de va-et-vient, elle est aussi très importante. Elle ne doit pas occulter les phénomènes de domination, parce que évidemment, le fait de dire que les États-Unis influencent le monde et que le monde influence les États-Unis, ça peut conduire, à, je dirais, à dépolitiser le sujet et à considérer que tout est très bien, puisque dans le meilleur des mondes possibles, avec des échanges mutuels, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a réellement des phénomènes de domination. Mais on les comprend beaucoup mieux en prenant en compte ces phénomènes de va-et-vient, et surtout en prenant en compte ces phénomènes de va-et-vient, on comprend que précisément on n'est pas américanisé, parce qu'il y a des choses qui viennent des États-Unis mais qui sont profondément transformées, reconstruites et réexportées éventuellement.
En prenant des exemples, effectivement, parce qu'il y a l'américanisation qui est donc au cœur de votre livre, c'est le sujet de votre livre, mais il y a aussi l'anti-américanisme.
Absolument. Alors, l'anti-américanisme, c'est un phénomène assez intéressant, parce que d'un côté, il est partiellement la conséquence de l'américanisation
et d'une certaine américanisation,
de la montée en puissance des États-Unis sur le plan géopolitique, sur le plan industriel, sur le plan culturel. Ça, c'est absolument indéniable. Il y a des réactions contre, effectivement, l'internationalisation à marche forcée de produits américains liés à des stratégies industrielles. Ça, c'est absolument clair. Mais il y a aussi d'autres dimensions de l'américanisation qui est, je dirais, purement interne à un certain nombre de pays et dans lequel viennent s'exprimer toute une série de problèmes purement nationaux dont on va rendre les États-Unis responsables alors qu'ils ne le sont pas forcément. Donc il y a une dialectique assez subtile entre ces deux questions-là.
Alors parlons d'abord de cette américanisation des Américains, en quelque sorte, même s'il est difficile de délimiter ce sujet en tranches, si j'ose dire. Vous citez Edouard Glissant et vous parlez de sa notion d'identité racine et d'identité relation. Ça vaut vraiment pour les États-Unis?
Alors c'est vrai que cette notion d'identité racine, identité relation, Glissant l'applique essentiellement au monde caraïbe,
oui,
mais au
sûr.
Fond, je trouve qu'on peut parfaitement l'appliquer aux États-Unis, parce que le processus de formation de la nation américaine est assez identique, parce qu'on a, dans un cas comme dans l'autre, des populations autochtones qui étaient là et qui ont été éliminées, il faut bien le dire, plus ou moins rapidement, mais éliminées, avec des pays qui se construisent largement par immigration, et puis par des immigrations extrêmement diverses. Cette dialectique entre identité racine, c'est-à-dire l'attachement à un territoire qui est quelque chose de fondateur dans le nationalisme. Tous les nationalismes fondent sur l'identité à un territoire donné, l'attachement à une terre. Mais il y a aussi cette identité relation qui est fondée sur la circulation, le fait de venir d'ailleurs et d'avoir cette idée de mouvement et de d'identité multiple. Et donc c'est la dialectique entre ces deux notions-là qui est à mon avis extrêmement importante pour comprendre la spécificité du nationalisme américain par rapport à d'autres nationalismes.
Alors les États-Unis se sont formés avec des vagues d'immigration successives dès le début. Vous le rappelez d'ailleurs, évidemment, il y a l'Odyssée du Mayflower et d'autres aventures de ces titres, c'est-à-dire des Anglais persécutés qui se sont installés sur la côte est des États-Unis au XVIIe siècle.
Tout à fait.
Mayflower, d'autres expéditions d'ailleurs.
Oui, alors le Mayflower c'est la première, mais il y en a évidemment.
1620 et après.
Tout à fait. Ouais. Après, il y en a toute une série d'autres tout au long du XVIIe siècle. Et effectivement, alors c'est très intéressant, cette première vague d'installation aux États-Unis, parce qu'elle permet aussi de comprendre certains éléments extrêmement importants de la culture américaine, et notamment le fait que les puritains qui s'installent aux États-Unis d'abord traversent l'Atlantique à une époque où c'est tout sauf évident. Je veux dire, aujourd'hui, évidemment, on traverse l'Atlantique en 7 heures d'avion. Alors évidemment, c'est très court. À l'époque, c'est beaucoup plus long. Il y a un voyage en bateau qui est encore très risqué. Hein. Et donc, tous ces gens-là quittent un pays où ils sont persécutés et arrivent dans un pays qu'ils considèrent comme vide, ce qui n'est pas en réalité, mais qu'ils considèrent comme vide, et qui est un pays immense, avec des ressources qui leur paraissent complètement illimitées. Donc ils ont le sentiment d'avoir trouvé la nouvelle terre promise, la nouvelle Jérusalem, et un pays aux ressources illimitées qu'ils vont pouvoir exploiter, je dirais, autant que c'est possible, et donc avec la certitude aussi de construire le paradis sur terre.
Alors ça c'est très important, le paradis sur terre, on va y revenir, Ludovic Tournès, mais aussi avec cette notion de frontière sans cesse repoussée.
Alors ça je crois que c'est extrêmement important.
Le mythe de l'Ouest.
Absolument, la notion de frontière est vraiment très importante pour comprendre la spécificité de la culture états-unienne, parce que c'est une nation, c'est pas une nation qui se construit à l'intérieur de frontières déjà plus ou moins délimitées.
Ça c'est extrêmement important et original.
C'est très très important, c'est une nation qui se construit dans la dilatation permanente de sa frontière. Parce que au départ,
frontière intérieure dans un premier temps et frontière extérieure, peut-être on y reviendra.
Alors c'est là qu'est la subtilité, parce que les États-Unis ont réussi à faire croire au monde que c'est une frontière intérieure, mais ce n'est pas une frontière intérieure au départ. Quand les États-Unis sont créés au lendemain de la guerre d'indépendance, la frontière, ça ne comprend que la côte est, mais toute l'autre partie du continent américain actuel ne fait pas partie des États-Unis. Donc tout ça c'est un processus de conquête, de conquête coloniale au fond, même si c'est un processus de conquête continentale, mais c'est une conquête coloniale. Et donc tout ça c'est pas de l'histoire intérieure, c'est de la conquête, et la nation américaine se construit dans le mythe de cette frontière qui se dilate en permanence. Alors elle se dilate finalement assez rapidement, parce qu'au fond l'ensemble du continent nord-américain, enfin le territoire États-Unis actuel, est conquis assez rapidement, en moins d'un siècle, alors que c'est un territoire immense. Et puis évidemment, après l'unification de ce territoire...
Oui, à la fin du 19e siècle, 1890, voilà.
Alors,
à peu près.
Alors, effectivement, 1890, le continent est déclaré unifié. C'est pas tout à fait exact dans les faits, mais peu importe. Ouais. Et donc, à partir de cette unification, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et du coup, c'est là aussi où la dilatation de la frontière, elle prend d'autres formes, beaucoup plus symboliques. Mais cette idée d'une expansion permanente, parce que les États-Unis se construisent comme une nation... en expansion permanente. Hein, et c'est là tout le problème, évidemment.
Avec le sentiment, on va y revenir dans un instant, d'avoir la vérité, d'avoir un modèle, d'être la démocratie incarnée, si j'ose dire. Restons sur cette question de l'immigration. Vous nous expliquez très bien dans votre livre, Ludovic Tournès, qu'à un certain moment, il y a eu une vague de xénophobie contre certains de ces immigrants qui, selon les critiques, selon ceux qui ne les aimaient pas, ne s'intégraient pas suffisamment aux États-Unis. Et vous parlez de cette campagne lancée par Theodore Roosevelt, le Roosevelt de la Deuxième Guerre mondiale, mais celui de 1915, qui a lancé une campagne pour américaniser, en quelque sorte, davantage ces immigrants.
Oui, tout à fait. En fait, les campagnes d'américanisation, alors, vous parliez de la xénophobie, en fait, à intervalles réguliers, il y a des vagues de xénophobie aux États-Unis. Alors, elles sont plus ou moins violentes selon les périodes, mais c'est vrai qu'avec...
Parce que les vagues sont plus ou moins importantes aussi.
Absolument. Elles sont en partie connectées à l'importance des vagues, mais dès le XVIIIe siècle, Benjamin Franklin, par exemple, critiquait le fait que les Allemands ne s'intégraient pas parce qu'ils lisaient pas la Bible en anglais. Donc voilà, il y a cette dimension-là. L'intégrabilité des migrants est un sujet de débat permanent aux États-Unis, étant donné précisément la quantité d'immigrants qui arrivent dans le pays, et en particulier à la fin du 19e siècle. Il faut se rendre compte qu'entre 1900 et 1910, il y a 1 million d'immigrants par an aux États-Unis, ce qui est énorme. Donc il y a la question de l'intégration, hein, de ces immigrants qui se posent, et du coup... Au début, au 19e siècle, on pense que le melting pot et l'intégration va se réaliser naturellement par l'assimilation de tous ces gens sur le territoire. Et puis on se rend compte que ça marche pas. Il y a toute une série de problèmes et de tensions. Et donc le pouvoir politique lance effectivement à partir de 1915 des campagnes d'américanisation pour transformer ces immigrants en Américains, en États-Uniens. Alors, ce sont des campagnes volontaristes qui sont menées à la fois au niveau de l'État fédéral et au niveau des États fédérés, des villes, des comtés, qui sont extrêmement diverses. Ça passe évidemment par l'apprentissage de l'anglais. Ça passe évidemment aussi par des cours, soit pour enfants, soit pour adultes, enseignant les valeurs et les principes de la démocratie américaine. Ça passe par l'intégration économique, etc. Donc, ça, il y a toute une série de volets dans cette stratégie d'américanisation. Et les acteurs privés y jouent évidemment leur rôle, les entrepreneurs bien sûr, et les studios de cinéma aussi, hein, finalement, en proposant aux immigrants un espèce de manuel de ce que c'est que l'histoire américaine, dont le western, qui est le genre le plus populaire dans le cinéma américain à cette époque-là, est vraiment l'exemple le plus achevé.
Alors le western, on va y revenir dans un instant, il y a aussi effectivement ce mythe qui commence à se créer, le mythe de l'Ouest.
Tout à fait. Alors le mythe de l'Ouest, alors il se crée en fait dès le 19e siècle avec la conquête, hein, la conquête de l'Ouest, et il devient vraiment un mythe quand cette conquête est pratiquement terminée et qu'elle est mise en scène à travers toute une série de médias qui sont nouveaux pour l'époque. Alors le roman à travers les feuilletons, à travers la presse à grand tirage, les maisons d'édition bien entendu qui commencent à publier des romans à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc ça c'est évidemment très très important, mais ça vaut pour les gens qui savent lire, mais il y a beaucoup d'immigrants qui savent pas lire, donc il y a toute une série d'autres médias qui se développent, en particulier il y a ce qu'on appelle les Wild West Show. Alors il y a d'abord le Wild West Show le plus connu, celui de Buffalo Bill, qui est le vrai Buffalo Bill, hein, qui après avoir
c'est le spectacle de l'Ouest, hein,
c'est le spectacle de l'Ouest, et Buffalo Bill crée le Wild West Show et joue son propre rôle une fois que la conquête de l'Ouest est finie et qu'effectivement il ne peut plus jouer le pisteur dans les régions de l'Ouest. Et donc ça, c'est très important, ce Wild West Show, parce que d'abord, ça touche des gens qui savent lire et qui ne savent pas lire, donc un public potentiellement beaucoup plus large. Et puis le Wild West Show contient tous les ingrédients qui vont être ensuite repris par le cinéma. Le cinéma n'invente rien, le cinéma reprend dans toute une série d'ingrédients et de représentations mythiques qui ont été développés par la presse à grand tirage, les romans et le Wild West Show, et les porte à l'écran, avec évidemment une possibilité de démultiplication beaucoup plus importante, à la fois aux États-Unis et dans le reste du monde. Et c'est là qu'on voit la dimension commune entre américanisation des immigrants et transformation du monde en États-Unis, parce que la vision d'une histoire des États-Unis mythifiée qui est donnée dans le western, elle est à destination des migrants pour leur donner un sentiment d'appartenance aux États-Unis, mais ça vaut aussi pour le public du monde entier qui n'est jamais venu ou qui ne viendra peut-être jamais aux États-Unis. Mais
avec l'accent mis, par exemple, c'est plus qu'anecdotique sur les paysages de l'Ouest, justement.
Absolument, je crois que le western...
Il va contribuer à créer ce mythe, hein, cette fascination pour ce qu'on appelle les grands espaces, les espaces sauvages des États-Unis.
Tout à fait, je crois que le cinéma a mis idéalement en scène ce que sont les grands espaces qu'on connaît tous aujourd'hui, parce qu'on a vu les westerns, on a vu les reportages, mais c'était pas le cas au début du XXe siècle, parce que c'était des paysages que les gens découvraient, et quand effectivement, quand on interroge le public à la fois américain et aussi étranger, non américain sur les westerns, une des choses qui a fasciné les spectateurs, c'était ces paysages absolument fantastiques et inouïs. Hein, et donc ça a joué beaucoup dans la fascination pour le pays.
Alors pour ceux qui savent lire, vous faisiez référence à ceux qui ne savaient pas lire, il y a donc la littérature et des auteurs américains qui commencent à émerger. On sait que le 19e siècle est une période prolixe, féconde, et vous mettez en évidence Cooper, Fenimore Cooper et son dernier des Mohicans. Pour quelle raison?
Parce que ce qui est intéressant avec Fenimore
James
Cooper,
Fenimore Cooper.
Ce qui est intéressant avec Cooper, c'est que il permet de montrer que la question de l'américanisation, elle se pose bien avant le XXe siècle, parce que c'est vrai que très souvent on a tendance à dire voilà, l'américanisation entre guillemets, ça commence en en 1945, voire en 1918, etc. Bon, en réalité, évidemment, il faut prendre une perspective de beaucoup plus long terme pour comprendre, je dirais, l'ensemble du phénomène. Et Fenimore Cooper fait partie de ceux. D'abord, c'est le premier auteur américain qui est connu mondialement, parce qu'il est connu mondialement. Il est traduit très vite dans plein de langues, en allemand, en français, en russe. Donc, il a cette popularité très importante. Et puis, il séjourne en Europe assez longtemps. Et donc, il fait partie de ceux qui vont commencer à exporter des images et toute une imagerie, un mythe autour des États-Unis, du continent nord-américain. Et ça, je crois que c'est très, très important, parce que finalement, toutes ces représentations qu'on a aujourd'hui des États-Unis, elles se construisent tout au long du 19e siècle, justement, par la littérature. Alors, non seulement par des écrivains états-uniens qui sont traduits dans le monde, et c'est le cas de Cooper, mais aussi par toute une série d'écrivains européens qui vont aux États-Unis.
Hein, français qui... notamment, il y a, je pense à Chateaubriand par exemple.
Oui, il y a Chateaubriand, il y en a des tas d'autres, et qui effectivement vont écrire ce qu'ils ont vu aux États-Unis, revenir en Europe et participer à la construction du mythe de l'Ouest. Et ça, je crois que c'est très important, parce que, et même certains d'entre eux participent à la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire qu'ils vont s'intégrer. D'abord, parfois, ils vont rester plusieurs années aux États-Unis. Parfois, ils vont travailler dans des expéditions scientifiques ou militaires. Donc, ils participent de ce processus-là, et ils participent de la construction de cette imagerie des États-Unis.
Alors, ce qui va jouer un rôle aussi très important, c'est plus discret, on en parle moins. Vous y faites référence plus que cela dans votre livre, Ludovic Tournès. C'est la peinture, par exemple. Et là, qui illustre bien ce mouvement de va-et-vient entre l'Europe et les États-Unis. Les artistes américains qui vont en Europe et qui sont influencés, qui reviennent aux États-Unis, mais aussi la peinture européenne influencée aussi, par exemple, par ces grands paysages, ces grands espaces.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les peintres américains du début du 19e siècle sont très influencés par la peinture européenne qui tient le haut du pavé à l'époque.
On peut en citer quelques-uns, Whistler ou je...
Oui, alors il y a Whistler, il y a James Trumbull, par exemple, des gens comme ça. Et c'est vrai que tous ces gens-là, finalement, sont très influencés par l'Europe et, d'un autre côté, élaborent toute une série de thématiques qui leur sont propres, mais qui, dans un premier temps, ne passent pas la rampe, parce que la peinture européenne tient tellement, encore une fois, le haut du pavé. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'effectivement, de très nombreux peintres, ça se compte par centaines, hein, font le voyage en Europe, et en particulier en France, à Paris, qui est vraiment le centre de gravité du paysage pictural mondial.
Notamment au XXe siècle, début du XXe siècle, voilà. Entre-deux-guerres.
Voilà, XXe siècle, entre-deux-guerres. Et puis, il y a un passage à partir de l'entre-deux-guerres où finalement, tous ces peintres vont déseuropéaniser la peinture américaine, mettre en avant des thèmes particuliers, et finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, mais dans les 20 ans qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, arriver finalement à remplacer le Paris comme étant le centre de la peinture mondiale, et le passage se fait assez progressivement, plus progressivement qu'on l'a souvent dit, mais du côté des États-Unis, qui devient vraiment le centre de gravité de cette peinture mondiale.
Peinture, et évidemment, et là on entre dans le cœur du cœur de vos connaissances, Ludovic Tournès, la musique et le jazz. Alors le jazz, c'est l'influence américaine à partir de quand? À partir du début du XXe siècle?
Alors le jazz, c'est un phénomène extrêmement intéressant pour ça, parce que c'est à la
des
fois...
Des jazz, dirait-on, alors, et des influences multiples.
Tout à fait, parce que la naissance même du jazz aux États-Unis est un phénomène transnational et d'influence multiple, parce que c'est pas un hasard si le jazz naît à la Nouvelle-Orléans, qui est précisément un port, hein, et avec toute une série d'influences diverses et variées qui viennent d'un peu partout. Et donc le surgissement du jazz dans les États-Unis de la fin du 19e, tout début du 20e siècle, c'est effectivement déjà un mélange d'influences afro-américaines, créoles, européennes. Et donc, c'est déjà une musique de mélange qui ensuite, évidemment, s'exporte à l'occasion des deux guerres mondiales, dès la première et puis encore plus avec la deuxième, et qu'on voit, opérer toute une série de mélanges dans les différents pays où elle passe, des mélanges qui sont des recréations, en fait. Hein, et ça, c'est très, très intéressant, parce que c'est là aussi où on touche le cœur de cette idée qu'on n'est pas si américanisé qu'on le croit, parce qu'au fond, évidemment, la thèse de l'impérialisme, elle est séduisante et elle est partiellement vraie, mais quand on regarde les phénomènes culturels dans le détail, on s'aperçoit de l'intensité des recréations qu'il y a. Et la thèse de l'impérialisme finalement sous-estime la capacité extraordinaire populations à recréer des choses par rapport à ce qui est exporté.
Aux États-Unis et ailleurs.
Aux États-Unis et ailleurs, parce que finalement, quand on regarde la façon dont le jazz est transformé dans les différents pays où il va, que ce soit en Europe ou en Asie, mais aussi dont des formes musicales qui sont nées ailleurs sont retransformées aux États-Unis. Le cas de la bossa nova est tout à fait exemplaire, parce qu'on a une musique qui est à base de samba, que les musiciens américains sont allés découvrir pendant des tournées du département d'État en Amérique latine, qu'ils ont partiellement ramené aux États-Unis et qu'ils ont ensuite réexporté comme étant une espèce de sous-genre du jazz à l'échelle du monde entier.
Ça me rappelle un duo Sinatra-Carlo Jobim. Ça,
voilà, effectivement, tout à fait. Ça, et donc, on est vraiment dans cette dynamique de circulation, mais qui, justement, ne doit pas masquer les phénomènes de domination, parce que c'est bien, justement, et quand je dis sous-genre du jazz, c'est comme ça que la bossa nova apparaît, alors que c'est un phénomène, évidemment, d'échange, mais par la puissance de l'industrie musicale américaine, c'est estampillé comme étant une musique américaine. Et c'est ça, effectivement, le point important, je pense.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Vous écoutez Idées, nous parlons d'américanisation en compagnie de notre invité Ludovic Tournez. Vous faites la part belle à la culture dans votre livre, mais vous parlez aussi de politique et vous examinez notamment cette notion de nationalisme aux États-Unis, plus d'actualité que jamais, dirais-je, dans la perspective de ces élections, de cette élection présidentielle. Vous écrivez, Ludovic Tournez, le nationalisme états-unien n'est pas un nationalisme comme les autres. Pourquoi ?
Alors, précisément parce que c'est un nationalisme qui s'est conçu d'emblée comme étant à l'échelle de la planète, et donc, et pour revenir à la question de la frontière,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
dont on parlait tout à l'heure, finalement, a tendance à considérer naturellement le monde comme une extension des États-Unis, ce qui évidemment pose toute une série de problèmes. Et effectivement, le messianisme démocratique états-unien qui s'épanouit au début du XXe siècle en est une des expressions.
Donc, il faut expliquer pourquoi. D'abord, parce que les États-Unis sont convaincus d'avoir le meilleur régime, en tout cas le régime le plus démocratique qu'il soit.
Absolument. Ça, je crois que c'est très important. C'est qu'il y a au tréfonds de la culture états-unienne, et on le voit bien dès le début de la création des États-Unis, cette idée d'avoir créé une synthèse politique parfaite. Le régime politique parfait qui évite les pièges à la fois de l'anarchie et de la tyrannie.
Influencé par les Lumières, Montesquieu notamment, et par John Locke aussi, le philosophe anglais.
La philosophie politique européenne, celle des droits naturels, John Locke, les Lumières, Montesquieu, et donc justement la fierté d'avoir réalisé cette synthèse, qui pose évidemment toute une série de problèmes, puisqu'on voit aujourd'hui que la démocratie américaine est loin d'être si parfaite que ça, on pourra y revenir. Mais donc il y a cette certitude d'avoir créé les régimes parfaits, le pays le plus démocratique du monde. Donc, à partir de là, l'idée de démocratiser le monde, elle est aussi très très importante dans la façon dont les États-Unis se conçoivent eux-mêmes. C'est-à-dire que naturellement, il est logique que ça devienne finalement une mission.
Avec une propension, effectivement, à vouloir exporter la démocratie dans les conditions que l'on sait, avec George Bush, par exemple, junior en Irak.
Tout à fait. Mais ça a commencé dès le début du XXe siècle, oui. Puisque la première opération de construction de la démocratie à l'états-unienne, ou plutôt de construction à l'états-unienne de la démocratie, ce qui est un petit peu différent, elle intervient pendant la guerre des Philippines, la conquête des Philippines, qui est une conquête coloniale, au fond, et elle se traduit évidemment par un désastre humain avec plus de 250 000 morts philippins.
Pour rappeler à quelle époque ?
Alors, c'est entre 1899 et 1902. Mmh. Et donc, c'est une conquête coloniale avec l'idée d'établir une démocratie aux Philippines. Et évidemment, avec des méthodes autoritaires la plupart du temps et qui, dans les faits, ne créent pas une démocratie aux Philippines.
Et il y a un terme qui est lié à cette volonté d'exporter la démocratie, de cette conviction qu'ont les Américains qu'ils ont le régime démocratique parfait. Il y a cette notion qui revient souvent quand on parle de l'histoire des États-Unis, cette notion de destin manifeste.
Alors, la notion de destin manifeste, elle est effectivement liée et elle est l'ancêtre, si je puis dire, du messianisme démocratique. Mais cette destinée manifeste, c'est de considérer que les États-Unis sont naturellement, enfin plutôt, non pas naturellement, mais c'est un destin qui leur est donné par la providence divine, de s'étendre naturellement à travers le continent américain et éventuellement plus loin, ça, et dès le milieu du 19e siècle, dès les années 1840, c'est un discours qui est développé par les élites politiques et intellectuelles, qui est évidemment, qui sert en partie de justification à l'expansionnisme territorial dans le continent nord-américain.
L'expression date très précisément de 1837, dites-vous ?
Alors, 1837, surtout 1845, quand elle se formalise, et puis après, elle est reprise dans les années 1850 et 1860, et elle va se traduire ensuite, effectivement, par ce messianisme démocratique qui s'épanouit essentiellement au moment de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Et disons, pour moi, ce messianisme démocratique, il couvre à peu près tout le XXe siècle jusqu'à la fin de la guerre froide, après quoi il décline. Et ça, je crois que c'est très important de le signaler, parce que on interprète souvent le messianisme démocratique comme étant ahistorique, comme étant intrinsèquement partie intégrante de la culture américaine.
Il faut le replacer dans son contexte.
Il faut le replacer dans son contexte, parce qu'il a un début, un milieu, et je dirais, alors je ne sais pas si c'est une fin, mais ce qu'on peut constater, ça je crois que c'est important pour nous, c'est que depuis la fin de la guerre froide, il est en permanent déclin. Donald Trump, évidemment, n'en parle pas du tout, mais Barack Obama n'en parlait pas non plus. Bill Clinton n'en parlait pas non plus. Donc ce messianisme a décliné à partir du milieu des années 90.
Alors ça, c'est la dimension politique, Ludovic Tournès. Il y a aussi la dimension, j'allais dire, industrielle de cette américanisation, puisque les Américains, l'industrie américaine a imposé un mode de production.
Alors, est-ce qu'elle a imposé ça ? C'est un problème.
En tout cas, ce modèle
peut débattre,
s'est exporté.
Mais effectivement, elle a élaboré un modèle. Elle n'a pas forcément inventé les méthodes de rationalisation de la production que sont le taylorisme et le fordisme, mais c'est elle qui les a mises au point et portées à leur plus grande extension. Et effectivement, c'est devenu un. C'est devenu. Alors, disons, ces méthodes de production ont permis ont été un facteur extrêmement important de la mondialisation des produits industriels états-uniens, tout simplement parce que, produits en grande quantité, ils étaient déjà amortis sur le marché intérieur américain, qui était, dès le début du XXe siècle, le marché intérieur le plus important du monde. Et donc, ensuite, évidemment, ils pouvaient arriver à des prix beaucoup plus compétitifs à l'étranger. Donc, il y a ça, il y a effectivement cette dimension vecteur des produits états-uniens. Et puis, il y a le mode de production lui-même, qui devient effectivement un modèle pour les industriels non seulement d'Europe mais aussi du Japon, d'Amérique latine, et c'est très intéressant de voir que dès le milieu des années 20, même dès les années 1910, dès avant la Première Guerre mondiale, mais surtout à partir des années 1920 et encore plus après 1945, on a comme ça des vagues d'industriels qui vont observer aux États-Unis les méthodes de production, à la grande joie des industriels américains qui peuvent démontrer l'excellence de leurs méthodes. Et donc il y a cette dimension modèle qui est très importante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce modèle, il n'est pas adapté tel quel dans les différents pays où il est mis en œuvre. Il est parfois profondément transformé. Et c'est là aussi où la question de l'américanisation est très complexe. Parce que si on prend, par exemple, le cas de l'importation des méthodes tayloriennes dans l'Allemagne nazie. Ça, c'est un cas très intéressant. Ouais. Et je dis bien l'Allemagne nazie, parce que c'est pas l'Allemagne de Weimar. L'Allemagne de Weimar est très peu américanisée du point de vue des méthodes de production. C'est à partir de l'arrivée d'Hitler que, il y a vraiment...
À partir de 33, tout à fait.
Milieu des années 30. Et donc, l'Allemagne nazie est un des pays les plus américanisés du point de vue des méthodes de production. Mais la signification de ces méthodes n'a strictement rien à voir avec celle qu'elle a aux États-Unis. Et là, on voit bien comment l'Allemagne nazie a complètement annexé le fordisme à un projet complètement différent du projet états-unien. Donc ça, c'est, je pense, très très important. Et par ailleurs, quand on regarde l'histoire des méthodes fordiennes sur le long terme, c'est là aussi où cette question de va-et-vient est importante à prendre en compte, parce que les États-Unis, à partir des années 20 et de l'internationalisation du fordisme, ont conquis cette image de modernité qu'ils ont gardée finalement jusqu'à la fin des années 60. Mais à partir de la fin des années 60, le modèle fordien, il entre en crise. Et du coup, les États-Unis vont aller chercher des modèles ailleurs, et ils vont les chercher dans des modèles qui eux-mêmes se sont inspirés du fordisme, mais qui l'ont profondément modifié. Et c'est là que le toyotisme entre en scène, si je puis dire, parce que c'est lui qui devient, à partir des années 70, un modèle pour les industriels
donc
américains.
On est passé de Ford à Toyota.
Absolument.
Ludovic Tournès, ce modèle, d'ailleurs, il faut le signaler, a été très vite, modèle entre guillemets, hein, ben, selon les, ce modèle, en tout cas, entre guillemets, a été critiqué assez rapidement par les écrivains, certains écrivains, hein, Kafka, Céline même, Voyage au bout de la nuit, hein, tous ces ouvriers, Charlot, évidemment...
Tout à fait. Alors en fait,
à l'intérieur et l'extérieur des États-Unis.
Absolument. Il a été vu de façon positive à l'intérieur et à l'extérieur, et critiqué à l'intérieur et à l'extérieur, en particulier pour son caractère déshumanisant, hein, parce que il faut rappeler quand même ici que les méthodes fordiennes, ce sont des méthodes de production de masse qui sont peut-être efficaces du point de vue de la quantité, mais du point de vue évidemment des conditions de travail, ce sont des méthodes extrêmement dures et qui se traduisent très clairement par une dégradation, hein, des conditions de travail des ouvriers, qui par ailleurs sont extrêmement surveillés au sein des usines Ford, etc. Donc il y a cette dimension-là, et effectivement elle est extrêmement critiquée, et la littérature a été un des véhicules effectivement de cette critique, et on voit bien comment à partir de cette époque-là et finalement jusque assez tard dans les années 60, il y a à la fois cette Amérique qui est symbole de modernité, mais d'une modernité qui est non seulement pas forcément positive, mais même parfois franchement négative, et donc avec une dimension de repoussoir. Et c'est là aussi où l'anti-américanisme entre en ligne de compte.
Il va sans dire, Ludovic Tournès, que les deux guerres mondiales ont beaucoup fait, évidemment, pour l'américanisation de la planète, de l'influence, en tout cas pour exporter l'influence des États-Unis, pas simplement sur le plan militaire.
Tout à fait. Alors, les deux guerres mondiales sont des moments charnières dans l'internationalisation des produits états-uniens. Un des symboles, le premier concert de jazz qui a lieu en Europe, hein, a lieu en début 1918 par effectivement un régiment, un orchestre militaire américain qui vient de débarquer en vue de d'aider la Triple Entente dans la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis en 1945, on a tous en tête évidemment c'est le pactage du GI avec toute une série de produits, et puis aussi très directement les usines d'embouteillage du Coca-Cola suivent l'armée américaine pas à pas. Donc il y a une liaison intime entre la présence militaire et puis les objets symboles de l'American Way of Life.
Ça, c'est et en 1945, il y a Glenn Miller. Glenn Miller, qui est la musique.
Et il y a le jazz, évidemment, qui, à partir de l'après 1945, va connaître une vague de popularité dans différents pays du monde, qui est liée au fait que c'est une musique en partie vue comme une musique de libération. Hein, c'est pas la seule cause, mais ça joue évidemment dans cette aura.
Il est intéressant de noter que ces deux guerres mondiales déclenchées par les Européens ont exporté en quelque sorte le modèle américain sans que les Américains le veuillent au départ. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une réponse aussi à ceux qui critiquent l'impérialisme américain.
Alors, je pense que c'est plus subtil que ça encore. C'est-à-dire que l'internationalisation des produits américains, c'est pas une internationalisation par accident. Ça, c'est souvent aussi ce que disent les États-Unis eux-mêmes. Mais ce processus d'internationalisation, il a été tout à fait cherché, il est tout à fait volontariste. Quand on voit les stratégies qui sont développées, par exemple, par Hollywood pour écraser les cinématographies européennes, c'est tout à fait clair. En revanche, les deux guerres mondiales, effectivement, les Européens se sont très bien débrouillés pour les déclencher eux-mêmes. Et du coup, effectivement, ça a été clairement des moments d'accélération de la montée en puissance états-unienne.
Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la notion de propagande, d'opinion publique. On a fait une émission avec Barbara Stiegler il y a quelques mois sur la fabrication du consentement, sur Walter Lippmann qui a joué un grand rôle aussi dans le conditionnement entre guillemets aux États-Unis, et on pense aussi à quelqu'un comme Edward Bernays qui a contribué à ce que les Américains entrent en guerre justement en 1917, a beaucoup contribué aussi à faire en sorte que les Américains fument et que les femmes américaines fument également. Il y a aussi un conditionnement par la propagande et la publicité qui est importante aussi dans cette américanisation du modèle entre guillemets de la société, de l'American way of life. On n'a pas encore utilisé le terme.
Non, mais tout à fait. C'est vrai que la publicité joue évidemment un rôle très très important, parce que c'est effectivement elle qui va contribuer à donner cette image de modernité à toute une série de produits américains. Ça va des cigarettes au Coca-Cola, en passant par le déodorant et toute une série d'autres produits. Donc là, et c'est là où on voit aussi que tout ça n'est évidemment pas par accident, parce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, et les industriels américains n'ont pas inventé la publicité, bien entendu, mais ce sont eux qui l'ont utilisée tout de suite beaucoup plus, hein, et de façon beaucoup plus agressive que les autres industriels, et en ont fait des éléments évidemment de conquête des marchés, et donc du coup d'accompagner tous ces produits par toute une série de messages verbaux et visuels qui sont véhiculés par la publicité.
Vous nous parlez également dans ce livre des efforts qui ont été faits en matière de propagande, toujours dans ce contexte de guerre froide, de la part des Américains, les missionnaires envoyés en Amérique latine, par exemple, fort critiqués par Ivan Illich, on en a parlé dans cette émission. Il y a les philanthropes qui ont ouvert très tôt des musées, des fondations. Ça, c'est aussi un autre thème de votre travail. Puis il y a ce que l'on appelle aussi la diplomatie culturelle.
Alors oui, la diplomatie culturelle, elle a connu sa plus grande extension pendant la guerre froide, hein, avec toute une série d'instruments qui ont été destinés à compléter la stratégie politique du containment développée par les États-Unis.
Par contenir l'URSS.
Voilà, par contenir l'URSS, et qui ont complété cette stratégie par, effectivement, une diffusion massive de sons, d'images, d'écrits, hein, et là, on a tous les médias qui sont mobilisés. Il y a évidemment les traductions d'ouvrages américains, il y a la radio avec Voice of America, il y a l'organisation des tournées de musiciens de jazz par le département d'État, il y a l'organisation d'expositions de peinture, et là on retrouve l'expressionnisme abstrait qui effectivement a été une arme de guerre froide de ce point de vue-là, et tout ça a été largement organisé à la fois par le département d'État et par la United States Information Agency, qui est vraiment le principal metteur en scène de la diplomatie culturelle de guerre froide, et aussi par les acteurs privés. Les grandes fondations, effectivement, en sont une. Et c'est là où on voit que pour la notion de soft power, qui est souvent très à la mode et qui a été popularisée par Joseph Nye, bon, c'est un petit peu une blague, parce que le soft power, il y a toujours le hard power derrière.
La puissance militaire et économique.
La puissance militaire, bien sûr. Donc ça, les deux vont ensemble. Et la diplomatie culturelle de guerre froide, elle est complètement indexée sur la diplomatie de guerre froide tout court.
Alors il est temps de s'intéresser au devenir de ce modèle américain, de cette américanisation. Mais je voudrais quand même souligner que vous avez des pages passionnantes sur l'influence du cinéma américain sur le cinéma japonais et sur aussi l'influence du cinéma japonais sur le cinéma américain. Et vous parlez notamment de Kurosawa qui est passé du cow-boy au samouraï, avec lequel on a changé de modèle, mais toujours influencé par les westerns aussi.
Oui, tout à fait. Alors,
l'influencé et l'influenceur.
Tout à fait. Le cinéma de Kurosawa est aussi un exemple très intéressant de tous ces va-et-vient avec, parce que Kurosawa, c'est à la fois, et c'est là où on voit que la thèse de l'impérialisme culturel et la thèse d'une diffusion unilatérale d'un modèle américain ne marche pas très bien, au fond. C'est que quelqu'un comme Kurosawa, c'est à la fois un cinéaste qui est profondément américanisé au sens où il est imprégné de cinéma américain et de western en particulier. Bon, et en même temps, on va me dire qu'il n'y a pas plus japonais que Kurosawa, oui, avec ses films de samouraï qui mettent en scène effectivement un personnage majeur de l'histoire japonaise. Mais Kurosawa transforme profondément les recettes du western pour faire ce qu'on a considéré comme un western japonais avec ses films de samouraï, notamment les sept samouraïs, mais qui est beaucoup plus que ça, et qui lui-même devient un modèle pour les réalisateurs américains de la génération du western des années 60, dit western crépusculaire. Donc on a tout ce jeu d'influences croisées qui, je pense, est extrêmement intéressant et qui montre aussi que, précisément, cette américanisation n'est pas une imposition culturelle uniquement unilatérale, mais qu'elle donne lieu à des profondes transformations et à des jeux d'influence en retour.
Ludovic Tournesse, est-ce que la destinée manifeste, c'est fini aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si c'est irrémédiablement fini, mais moi, ce que j'observe, c'est que depuis, encore une fois, le milieu des années 90, les États-Unis non pas se désengagent du monde et non pas sont en déclin. J'y crois pas au déclin américain, mais par contre,
c'est un vieux débat. Hein.
C'est un vieux débat, oui, mais moi, j'y crois pas au déclin américain. Par contre, il y a émergence d'autres puissances, ça c'est très clair. Et puis surtout, il y a ce que j'appelle une désindexation entre le destin des États-Unis et celui du monde. C'est-à-dire que pour moi, les États-Unis ont indexé leur destin et leur destin national et le destin du monde entre, disons, 1917 et 1992, c'est-à-dire identifier leur propre destin à celui du monde entier. Et depuis la fin de la guerre froide, le début des années 90, il y a une disjonction qui s'est opérée, dont l'arrivée au pouvoir de Donald Trump n'est que le dernier épisode, hein, mais on aurait tort de voir dans Donald Trump une aberration ou un épisode sans précédent. En réalité, il ne fait que poursuivre un mouvement déjà engagé, auquel évidemment il a donné une accélération et puis son style très particulier. Mais au fond, depuis le milieu des années 90, les États-Unis se désindexent du reste du monde.
Même s'il existe toujours une empreinte américaine sur le monde, et je pense là spécifiquement, on n'en a pas encore parlé, il est temps d'y faire référence aux GAFAM.
Absolument.
Au monde numérique.
Absolument. Ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on peut considérer, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens disent qu'on est complètement américanisé, la culture, la révolution numérique, elle est évidemment majoritairement états-unienne et ses entreprises, évidemment, jouent un rôle absolument déterminant, à la fois du point de vue de la diffusion des produits, mais des pratiques aussi. Hein, donc, on pourrait considérer que, du point de vue de la culture matérielle, on n'a jamais été autant américanisé. Mais la différence, je crois, fondamentale avec l'après-1945, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont peut-être très très puissants, mais ils n'ont jamais été aussi impopulaires et au fond n'ont jamais été aussi détestés, même dans une bonne partie du monde, et que par ailleurs ils n'ont plus cette image de modernité qu'ils avaient entre, disons, 1945 et la fin des années 60. Et ça, je crois que c'est très important.
Donc, contrairement à ce que disait Régis Debray, nous ne sommes pas tous devenus américains.
Non.
La réponse est
très nette. Je crois qu'on est effectivement. Ça n'empêche pas que les États-Unis ont une influence considérable, mais non, on n'a pas été américanisé et on le sera pas.
Merci Ludovic Tournesse. Il faut lire absolument votre livre qui s'intitule Américanisation, qui est un livre dense, riche et subtil. Il est publié chez Fayard.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce magazine, l'écouter en balado-diffusion, le télécharger sur notre site www.rfi.fr, sur iTunes aussi, on parle des Américains, sur votre plateforme de recherche préférée. Enfin, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.